Et aujourd'hui, dans les studios de Radio Bassivière, nous accueillons Erwan Touré. Salut Erwan.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu viens faire ici exactement?
Je suis élève en classe de première scientifique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans le cadre de ma production des travaux personnels encadrés pour le bac, mon travail de recherche sur les conséquences néfastes de la radioactivité sur les êtres vivants.
Alors, par où as-tu commencé tes recherches?
Pour débuter cette recherche, j'ai fait un sondage au niveau de mon lycée en posant la question aux personnes interrogées, est-ce qu'ils pensent que la radioactivité peut avoir des conséquences dangereuses pour les êtres vivants? Nous allons écouter tout de suite trois réponses qui nous ont été apportées.
Oui, je pense que ça peut avoir une influence parce que, par exemple, on peut regarder notamment l'explosion de la centrale nucléaire à Fukushima. Il y a eu de nombreuses victimes après cette explosion. Voilà. Ça peut être dû justement à la radioactivité.
Oui, je pense que elle a une influence sur les êtres vivants parce qu'elle elle modifie le comportement et la condition physique de l'être vivant qui est infecté.
Oui, parce que si on prend l'exemple de Tchernobyl, ceux qui vivaient à côté de Tchernobyl, il y a eu des problèmes au niveau des naissances. On voyait que certains enfants avaient des déformations et des problèmes, certaines fois, je crois, psychologiques. Et puis...
L'écologie m'intéresse énormément parce que c'est ce qui fait vivre notre planète. Sans l'écologie, il n'y aurait sûrement plus rien à l'heure actuelle.
Au vu des trois réponses, on peut se dire que globalement, les lycéens pensent qu'il y a des dangers à la radioactivité. Je sais que ton sondage était plus grand. Combien de personnes as-tu interrogé exactement?
J'ai interrogé 27 personnes. Il y avait un collégien, deux élèves en classe de seconde, 11 premières avec 5 premières S, 3 premières ES, 2 premières L et 1 premier STMG, 5 terminales avec 2 terminales S, 2 terminales STMG et 1 terminale L, et 8 personnes qui sont en études supérieures ou qui ont terminé leurs études supérieures.
Donc un panel assez large chez des étudiants. Quelle a été un peu la synthèse de ton sondage?
Bien sûr, la question que j'ai posée, j'ai eu 100% de réponses affirmatives sur le fait que la radioactivité pouvait être dangereuse pour les êtres vivants. J'avais aussi demandé un peu l'intérêt de chaque personne au niveau de la radioactivité, du nucléaire et de l'écologie. Et donc, quel que soit leur intérêt, ils pensaient tous qu'il y avait donc cette dangerosité.
Mais du coup, alors on parle de radioactivité, d'effet de la radioactivité sur les êtres vivants. Pour le moment, c'est un peu flou pour moi. Est-ce que tu pourrais m'éclairer un peu plus précisément?
Quand on parle de radioactivité, on parle de la désintégration du noyau d'un atome qui va être instable en un autre noyau, donc toujours d'un atome qui peut être un autre atome qui va être plus stable. Et donc ça peut être, souvent quand on parle de radioactivité, on pense à l'uranium ou ces sortes de radioactivité naturelles, mais donc il peut y avoir d'autres atomes qui peuvent être radioactifs, car en fait leur instabilité est due à la présence de trop de neutrons ou de trop de protons dans leur noyau.
L'uranium est naturellement radioactif, mais le fait de faire la scission d'un atome d'une matière naturellement qui ne soit pas radioactive, ça provoque de la radioactivité?
Oui, donc on fait la différence entre la radioactivité naturelle, donc dans des pierres par exemple radioactives telles que l'uranium, et puis des radioactivités artificielles, donc qui se font en laboratoire. Donc par exemple dans les centrales nucléaires avec des effets de fusion et de fission par exemple.
Est-ce que tu peux nous rappeler un peu la composition d'un atome?
Donc l'atome va être composé d'un noyau qui va être composé lui-même de plusieurs nucléons, donc soit des protons qui vont être chargés positivement, soit des neutrons. Et autour de ce noyau vont graviter plusieurs électrons qui vont être chargés négativement.
Quand tu dis chargés positivement et négativement, c'est en électricité ou...
Oui, c'est la charge électrique.
D'un atome. Est-ce que c'est lié le fait que la scission d'un atome soit utilisée pour produire de l'électricité ou
Quand un atome va se désintégrer, il va libérer une énergie et donc ça va, on va plus souvent l'utiliser en tant qu'électricité, mais ce n'est pas dû aux charges que porte l'atome, car il est électriquement neutre lui-même.
Comment elle est créée justement cette radioactivité artificielle ?
Elle peut être créée de plusieurs façons, donc par fusion ou par fission des noyaux. Et donc elle va s'accompagner, que ce soit dans la radioactivité artificielle ou naturelle, de l'émission de particules radioactives ou d'un rayonnement radioactif. Et donc il existe trois sortes de rayonnements et de particules. Il y a les particules alpha, des particules bêta et des rayonnements électromagnétiques gamma.
Quelle est la différence entre les alpha, les bêta et les gamma ?
C'est pas les mêmes particules. Et puis au niveau de pour s'en protéger, il y a aussi une différence. La particule alpha, il suffit d'une feuille de papier pour l'arrêter. Une particule bêta, il va falloir quelques millimètres d'aluminium. Et par contre, le rayonnement gamma, vu que c'est un rayonnement électromagnétique, il va falloir plusieurs mètres de béton ou de plomb pour l'arrêter. Les déchets à rayonnement gamma vont donc être plus dangereux, car il va être vraiment plus difficile de les arrêter. Dans les centrales, il faut beaucoup de mètres de béton. Et donc, par exemple, plus un rayonnement alpha, même si on porte des habits, ça va directement l'arrêter. Le rayonnement gamma, ça va rien lui faire. Il va traverser notre corps.
Tranquillement.
Oui.
Comment on mesure justement l'intensité de ces rayonnements ?
Ben, on a trois échelles de mesure. On a ce qu'on appelle la mesure en Becquerel. On mesure le nombre de désintégrations par seconde qu'il y a dans la pierre ou dans l'élément qu'on essaye d'étudier. Dans les différents atomes qui vont composer la pierre, il va y avoir des noyaux qui vont se désintégrer toutes les secondes. Et donc ensuite, il y a une deuxième sorte de mesure qu'on appelle le gray. C'est plus au niveau quand on va plus s'intéresser à la conséquence que ça va avoir sur un objet, la radioactivité, c'est en fait la dose absorbée par le corps qui est exposé aux particules et aux rayonnements radioactifs. On prend souvent pour expliquer l'exemple d'un pommier ou d'un arbre fruitier. Par exemple, le becquerel, ça va être le nombre de pommes qui vont tomber.
Mmh.
Et s'il y a quelqu'un en dessous, les grès, ça va être le nombre de pommes qui vont tomber sur cette personne. Il y a la dernière mesure qui est le sievert, où donc on va plus mesurer l'effet biologique qu'ont les rayonnements sur l'organisme exposé. Donc c'est au niveau du sievert seulement qu'on va faire la différenciation entre les différentes particules alpha, bêta ou rayonnement gamma, qui ne vont donc pas avoir la même influence.
Est-ce que tous les rayonnements sont égaux ?
On peut être exposé de deux façons différentes à un rayonnement. On peut être exposé par irradiation, donc c'est-à-dire qu'on est exposé de façon externe au rayonnement radioactif, ou par contamination. Donc là, ça veut dire que les rayonnements et les particules radioactives ont pénétré à l'intérieur de l'organisme. Donc soit par inhalation ou par ingestion d'aliments qui étaient radioactifs.
C'est un vaste sujet dont tu nous parles aujourd'hui. Quel est l'axe que tu as emprunté ?
Je me suis posé comme question quelles étaient les conséquences néfastes de la radioactivité sur les êtres vivants. Donc je me suis basé sur trois parties. On commence d'abord par faire une expérience sur des levures avec des pierres radioactives. Puis j'ai étudié plus de façon par des documents l'impact de la radioactivité en général sur l'homme, sur les plantes et sur les animaux. Et puis après, je me suis plus particulièrement penché sur le radon, donc qui est une radioactivité naturelle que nous pouvons trouver un peu partout en France.
Expérience.
Est-ce qu'elle a un titre, ton expérience ?
Non.
Alors on l'appellera expérience. Levure.
Je me suis d'abord posé une hypothèse que je voulais essayer d'affirmer ou d'infirmer. Et donc comme hypothèse, je me dis que les levures exposées aux pierres radioactives devrait normalement posséder des mutations à la fin. Et donc, c'est des levures qui mutent naturellement en levure rouge. Il devrait y avoir de moins en moins de levure rouge plus les boîtes sont proches des pierres. Et il devrait aussi y avoir une concentration moins élevée s'il y a une conséquence sur la durée de vie des levures. Au niveau de mon protocole d'expérience, j'ai commencé par préparer ce qu'on appelle une suspension mère. J'ai mis des colonies de levure dans 10 ml d'eau stérile. Et donc j'ai mis 1 ml de suspension dans chaque boîte, qui sont ce qu'on appelle des boîtes de pétri. Donc pour créer des colonies qui vont pouvoir pousser et grandir. J'ai fait deux installations. La première installation était sur une table à côté d'une fenêtre avec 5 boîtes qui étaient à des distances différentes de la pierre, plus une boîte témoin donc qui n'était pas exposée au rayonnement radioactif. Et la pierre utilisée avait une radioactivité mesurée de 0,56 nanosieverts par heure. Et ensuite, la deuxième installation était dans une armoire, donc pour qu'il n'y ait pas d'UV, avec 3 boîtes qui étaient à des distances différentes toujours, et une boîte témoin. Et la pierre, cette fois-ci, avait une radioactivité de 0,26 nanosieverts par heure. En fait, j'ai fait deux expériences parce que la première fois que j'ai fait l'expérience, il y avait trop de moisissures et de champignons qui avaient poussé dans les boîtes. Il y a de grandes chances que ce soit à cause des conditions qui n'étaient pas assez stériles au niveau de la préparation. Au niveau des observations, au jour 6, nous avons remarqué dans l'installation de la table que les boîtes exposées, il n'y avait que des levures blanches et que dans la boîte témoin, il y avait plus de levures et certaines étaient rouges. Et dans l'installation de l'armoire, il n'y avait que des levures blanches dans toutes les boîtes. Mais plus la boîte était proche de la pierre, moins il y avait de levures. Suite au jour 10, nous avons remarqué dans l'installation de la table qu'il y avait des levures rouges et blanches dans toutes les boîtes. Mais encore une fois, que plus la boîte était proche de la pierre, moins il y avait de levures. Et nous avons fait les mêmes observations dans l'installation avec l'armoire. Et au jour 11, nous avons remarqué une forte condensation dans les boîtes d'installation de la table à cause, nous pensons, du radiateur. Et encore une fois, il y avait des levures rouges et blanches. Et plus la boîte était proche de la pierre, moins il y avait de levures. Au jour 14, nous avons une hausse du nombre de levures blanches dans toutes les boîtes, mais beaucoup moins pour la boîte témoin de l'installation de la table. Et ensuite, au jour 34, il n'y avait que des levures blanches, car il y a eu les vacances de Noël entre temps, et donc le pigment des levures a disparu à cause du temps. Suite à ces observations, nous remarquons qu'il y a une baisse du nombre total de levures dans les boîtes exposées aux pierres radioactives et qu'il y a aussi une baisse du nombre de levures rouges particulièrement. Et donc nous remarquons que plus la boîte est proche des pierres, donc plus elle est exposée à une forte intensité de rayonnement et de particules radioactives, moins il y a de levures et moins il y a de levures rouges. Donc l'influence change suivant l'intensité des rayonnements qui est reçu par la boîte. Et donc nous pouvons en déduire que les rayonnements radioactifs et les particules radioactives émises par la pierre tuent des levures et créent des mutations anormales sur les autres levures.
Erwan, après nous avoir fait part de ton expérience sur des levures, nous allons nous préoccuper un peu plus directement de l'influence de la radioactivité sur les êtres vivants.
Oui, donc pour cela, j'ai contacté monsieur Jean-Marc Berthaud, donc, qui est chercheur à l'IRSN.
Qu'est-ce que l'IRSN ?
C'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est un institut de recherche sur plusieurs aspects du nucléaire et de la radioactivité.
Je suis Jean-Marc Berthaud, je suis chercheur, j'ai une formation en immunologie et je travaille à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire depuis 1991. Et actuellement, je travaille dans le laboratoire de radiotoxicologie qui s'occupe donc de l'étude des effets de la contamination interne, donc l'ingestion de radionucléides.
En faisant mes recherches, j'ai vu différentes façons dont les rayonnements radioactifs, les éléments radioactifs vont impacter l'ADN. Quelles sont ces façons et comment ça se passe qu'il y ait ces plusieurs façons ?
Alors, les rayonnements ionisants, ce sont des particules qui sont très énergétiques, qui transportent de l'énergie dans la matière. Et l'interaction de ces particules issues de la désintégration des atomes va provoquer des dépôts d'énergie. Ces dépôts d'énergie vont interagir avec leur environnement. Alors, dans les tissus vivants, les organismes vivants sont composés à 80%, 70% d'eau. Donc, la cible principale de ces rayonnements ionisants va être bien évidemment l'eau. Lorsque un rayonnement radioactif interagit avec une molécule d'eau, le dépôt d'énergie dans la molécule d'eau va conduire à sa cassure en ce qu'on appelle des radicaux libres. Et ces radicaux libres vont ensuite interagir avec d'autres molécules, des protéines ou des lipides ou des glycides, peu importe, voire même avec de l'ADN, pour induire des dommages qui vont inactiver ces molécules. Alors évidemment, l'inactivation de la molécule d'ADN peut poser des problèmes à la survie de la cellule. Alors, par contre, lorsque le rayonnement ionisant va rencontrer directement la molécule d'ADN, eh bien, il va se passer exactement la même chose. Le rayonnement ionisant va déposer de l'énergie dans la molécule d'ADN, ce qui va induire une cassure de cette molécule d'ADN. Alors, cette cassure, après, peut être réparée ou pas, ou mal réparée, et donc induire éventuellement des mutations. Les deux phénomènes sont identiques, c'est simplement la cible qui change. Soit la première cible rencontrée, c'est l'eau, et à ce moment-là, on a production de radicaux libres qui vont induire des cassures dans l'ADN, ou bien le rayonnement ionisant rencontre directement l'ADN, et à ce moment-là, il va induire des cassures directement dans la molécule d'ADN.
Quand ces éléments radioactifs vont agir sur l'ADN, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'ADN ?
Que ce soit via l'eau ou directement, les conséquences sont exactement les mêmes. Donc l'ADN, comme vous le savez, c'est une molécule qui est composée de quatre bases, A, T, G, C, et la combinaison de la succession de ces bases constitue une séquence qui code pour des protéines qui permet le fonctionnement de la machine vivante. Bon. Alors, lorsqu'il y a une interaction entre le rayonnement ionisant et l'ADN, on va avoir différents types de dommages qui vont être produits. Le plus sévère, c'est lorsqu'on a une cassure double brin, c'est-à-dire une cassure des deux brins d'ADN simultanément au même endroit. À ce moment-là, les deux brins d'ADN risquent de s'écarter, et donc le codage de la protéine correspondant à cette séquence ne peut pas se faire. Donc il y a une perte de fonction. De plus, si la cellule se divise, elle va emporter un morceau de chromosome dans une cellule fille et un autre morceau du même chromosome dans une cellule fille. Et la plupart du temps, ce genre de lésion est létale pour la cellule. Donc la cellule va mourir. Maintenant, il y a d'autres types de lésions qui ne sont pas forcément létales. Ça va induire des mutations c'est-à-dire des changements de la séquence des bases dans l'ADN. Et donc, on peut voir apparaître des mutations qui peuvent conduire à l'apparition de cancers. C'est grosso modo les deux types de conséquences qui sont observées après une interaction entre le rayonnement ionisant et l'ADN, soit des cassures qui conduisent à la mort de la cellule, soit des mutations qui vont conduire à l'apparition d'un cancer.
D'autres formes d'impact de la radioactivité chez l'homme.
Sous niveau de l'homme, les rayonnements radioactifs vont perturber l'organisme et donc il peut y avoir des effets immédiats tels qu'au niveau de la peau, on peut avoir des rougeurs, des brûlures ou des nécroses, donc c'est une brûlure de la peau, une peau qui meurt.
D'ailleurs, c'est le genre de choses qu'on remarque dans le cas des radiothérapies.
Oui, il peut y avoir ça. Ensuite, on peut avoir au niveau des gonades, avec des modifications temporaires, prolongées ou même irréversibles.
Qu'est-ce qu'une gonade ?
Les gonades, c'est les appareils reproducteurs chez l'homme et chez la femme. Deuxième question sur est-ce que le corps émet lui-même des rayonnements radioactifs ?
Alors, tout à fait. Il faut savoir que nous vivons dans un environnement radioactif. Cette radioactivité a différentes origines. Ça peut être une origine tellurique, c'est-à-dire dans les sols. Au moment de la formation de la Terre, des radionucléides ont été créés par le Big Bang et ces radionucléides continuent à perdurer dans le temps. Donc ils sont présents dans les sols, dans tout notre environnement. Ils peuvent avoir aussi une autre origine qui est cosmique cette fois-ci. Donc en fait, c'est l'interaction du rayonnement cosmique avec l'atmosphère qui vient induire la création de radionucléides. Et puis, il y a bien entendu toutes les activités humaines qui vont rejeter dans l'environnement des petites quantités de radionucléides. Alors quand on dit activité humaine, ça peut être des activités militaires, les bombes par exemple, mais pas seulement. Ça peut être des activités civiles, comme les réacteurs nucléaires, qui rejettent des toutes petites quantités de matière radioactive. Mais ça peut être aussi la médecine, qui utilise des matières radioactives pour traiter certaines formes de cancer. Et donc, toute cette radioactivité se retrouve dans notre environnement. À partir du moment où elle est dans notre environnement, elle va intégrer les plantes et les écosystèmes. Et bien évidemment, comme nous nous nourrissons de cet environnement, soit directement en consommant des plantes, soit indirectement en consommant des animaux qui eux-mêmes consomment des plantes, eh bien, nous avalons au quotidien de la radioactivité. Alors bien évidemment, c'est en quantité très très faible. L'estimation à l'heure actuelle est que un homme normalement constitué de 70 kg à peu près, contient environ 9 kg becquerel de radioactivité, c'est-à-dire qu'on peut observer 9000 désintégrations nucléaires par seconde dans un organisme humain. Donc oui, nous sommes radioactifs, mais nous vivons dans un environnement...
C'est négligeable par rapport quand on parle aux limites d'exposition et à l'exposition naturelle moyenne des êtres vivants ?
Alors, c'est pas négligeable par rapport à l'exposition globale. L'exposition globale en France, elle est aux environs de 4,5 millisieverts. La contamination interne représente une partie non négligeable de cette exposition naturelle. Le reste de l'exposition naturelle, elle vient de l'irradiation due à la présence de radionucléides dans notre environnement. On ne fait pas que les avaler, on y est exposé. Elle vient aussi du rayonnement cosmique. Par exemple, quand vous vous promenez en montagne, que vous êtes l'épaisseur de l'atmosphère est beaucoup moindre que lorsque vous êtes au niveau de la mer. Donc, vous recevez beaucoup plus de rayonnement cosmique. Et si vous prenez l'avion, vous prenez encore plus de rayonnement cosmique que si vous êtes au sommet du Mont Blanc. Et puis, il y a toutes les expositions médicales aussi. Alors, c'est un peu plus difficile à estimer parce que on va faire des moyennes à l'échelle de l'individu. Mais pour vous donner une idée, un scanner peut représenter une part très significative de l'exposition annuelle moyenne en France. Une radio des poumons va représenter, c'est un deuxième exemple, va représenter 0,1 millisieverts, alors que l'exposition naturelle est aux environs de 4,6 millisieverts. Donc notre exposition interne, je n'ai plus les chiffres en mémoire, mais ça tourne aux environs de 0,8 à 1 millisieverts. Donc ça représente, disons, un quart de notre exposition naturelle moyenne.
Impact de la radioactivité chez les animaux.
Là, nous avons entendu au niveau des interviews et que souvent nous voyons l'impact de la radioactivité au niveau d'accidents nucléaires tels que Tchernobyl ou Fukushima. Et donc, pour l'impact sur l'animal, il y a une expérience qui a été faite suite à l'accident de Fukushima, donc sur des papillons qui se trouvaient aux alentours du lieu de l'accident. Donc, il y a une première étape pour cette expérience, 2 mois après l'accident nucléaire, où on a étudié 144 papillons qui avaient été pris dans 10 localités différentes jusqu'à 200 km de la centrale. Et ils ont observé des malformations sur les ailes, sur les yeux et les antennes, sur 12% des papillons. Et ensuite, ils les ont fait se reproduire. Donc, à la deuxième génération, ces malformations apparaissaient sur 18% des papillons. Et à la troisième génération, c'était sur 33,5%. Donc, nous voyons que les mutations peuvent se transmettre de génération en génération et donc augmenter la quantité de malformations. C'est ça, il y a une deuxième étape qui a été faite 6 mois après sur un nouveau 328 papillons qui ont été capturés dans la nature. Et il y a une malformation sur 28% des papillons et sur la deuxième génération, une malformation sur 52% des papillons. On voit que même si c'est dans la nature, les malformations vont aussi augmenter de génération en génération. Et enfin, pour vérifier tout, il y a une expérience test. Et on a pris des papillons qui n'étaient pas irradiés. Et en laboratoire, ils les ont exposés à de faibles doses de radioactivité. Et ils ont remarqué que les papillons présentaient suite à cette exposition les mêmes anomalies que la première génération des papillons étudiés à Fukushima. On en conclut que les gènes des papillons ont été affectés et que tous les effets de malformation n'apparaissent pas forcément immédiatement. Et donc il y a aussi au niveau d'autres animaux, par exemple au niveau des fauvettes et des hirondelles, il y avait des plumages et des œufs anormaux autour de Fukushima toujours.
Impact de la radioactivité chez les plantes.
Une dernière question sur l'impact sur les plantes. Et donc, si on a déjà observé, comme sur des animaux, des phénomènes de mutation et de malformation sur des flores exposées à la radioactivité.
Alors, ce n'est pas vraiment mon domaine de compétence. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que effectivement, à la suite de l'accident de Tchernobyl, on a observé des dommages très importants aux plantes, notamment dans la zone d'exclusion autour du réacteur de Tchernobyl, donc dans les zones les plus contaminées, les plus radioactives autour de la centrale. Maintenant, alors donc il y a certainement des mutations qui sont induites chez les plantes, mais encore une fois, c'est un domaine que je connais très mal, donc ma réponse ne sera certainement pas complète. Ce qui a été observé, c'est que la forêt, ce qu'on a appelé la forêt rousse de Tchernobyl, donc tous ces sapins qui ont été fortement impactés par la radioactivité du réacteur, a très bien régénéré. Et au jour d'aujourd'hui, elle n'a plus de forêt rousse que le nom. On voit des plantes qui sont tout à fait normales. Mais dans les années qui ont suivi l'accident, oui, il a été observé des croissances anormales des plantes qui peuvent être apparentées à des mutations.
Dernière grande partie, donc en penchant plus particulièrement sur le radon, qui est une radioactivité naturelle que nous trouvons dans les pierres. Le radon, c'est un gaz naturel et radioactif qui est inodore, incolore et insipide. Il provient du sol, essentiellement des roches granitiques et volcaniques. Et il provient de la désintégration du radium, donc par des cycles des roches radioactives.
par des cycles, c'est-à-dire
c'est, bah, par exemple, peut exister le cycle de l'uranium, donc c'est un cycle de désintégration. Quand un atome donc, va se désintégrer, il va former un autre atome qui peut lui-même se désintégrer, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un atome stable. Et donc, lorsque le radon se désintègre, il produit d'autres substances qui sont elles-mêmes radioactives, ce qu'on appelle donc ces descendants de filiation. Et on va mesurer l'activité volumique souvent du radon en becquerel par mètre cube d'air. Donc le radon, on peut en trouver assez régulièrement, souvent dans plusieurs matériaux de construction, comme la pierre, suivant la teneur de la pierre en radium, suivant si c'est du granit ou autre, du plâtre, mais en très basse quantité, ou aussi dans le bois, qui va être aussi peu radioactif, mais il y a des matériaux qui vont être beaucoup plus radioactifs. Il peut y avoir l'argile, le grès, l'ardoise ou le granit, donc qui vont contenir beaucoup de radon. Et il peut y avoir aussi du radon dans l'eau à cause des tuyauteries. Monsieur Berthaud, est-ce que si par exemple il y a des cours d'eau qui vont passer par des endroits graniteux, donc où il y avoir du radon, est-ce que l'eau peut elle-même accumuler le radon qu'il y a dans le granit ?
Alors, effectivement, alors, le radon fait partie des radionucléides que l'on trouve dans notre environnement. Il est issu de la désintégration de l'uranium. Donc le radon est un gaz. Donc lorsque l'uranium se désintègre en radon, ce radon va s'échapper de la roche et va diffuser dans l'atmosphère. S'il rencontre de l'eau, effectivement, il va pouvoir se dissoudre dans l'eau. Mais l'exposition due au radon présent dans l'eau est très minoritaire parce que il suffit que l'eau soit un petit peu turbulente, agitée, que des remous dans une rivière ou dans un torrent peuvent suffire pour que le radon dégaze de l'eau et donc s'échappe de l'eau. Donc en fait, l'exposition au radon par l'eau est extrêmement faible. Par contre, ce qui est plus important, c'est l'exposition au gaz radon dans les maisons qui ne sont pas aérées, dans les sous-sols des maisons qui ne sont pas aérées. Comme le gaz radon vient du sol, il peut s'accumuler dans les parties basses des maisons. Et là, vous pouvez avoir des concentrations relativement importantes que cette fois-ci, vous allez respirer. Et ça peut être un peu plus dangereux parce que ça peut induire des cancers des poumons. Alors, encore une fois, je vous rassure, les quantités qu'il faut pour induire un cancer des poumons sont quand même très importantes. Et dans la très grande majorité du cas, le radon ne pose pas de problème de santé.
On peut être touché de deux façons différentes par le radon, soit par inhalation, où donc le radon va être inspiré dans l'air et va passer pendant l'appareil respiratoire. Et la plus grosse quantité de radon va donc rester dans les bronches et donc irradier au niveau des bronches. Ou sinon par ingestion dans l'eau. Et donc par l'intermédiaire de l'estomac, le radon va alors passer dans le sang et va aller dans tout le corps. Après, les conséquences du radon sur la santé. Le radon, donc, comme tous les autres éléments radioactifs, va attaquer l'ADN. Donc, il va y avoir à peu près les mêmes conséquences. Ça va surtout créer des cancers du poumon, car c'est donc il agit surtout au niveau des bronches.
En conclusion
de ce dossier, nous pouvons dire que la radioactivité va avoir de nombreux impacts négatifs sur les êtres vivants, si elle est présente en grande quantité, que ce soit sur les hommes, les plantes ou les animaux. En faible quantité, elle ne va pas forcément avoir beaucoup d'impact. Elle peut tuer des organismes ou leur faire subir des mutations. Et sur tous les êtres vivants, elle va agir directement ou indirectement sur l'ADN qui va alors subir des lésions. Elle peut aussi entraîner des malformations chez les plantes comme chez les animaux. Mais chez l'homme, ça va plutôt être des brûlures ou des cancers que des malformations. Et donc cette radioactivité, elle peut se manifester à l'état naturel, donc par la présence du radon, qui va avoir les mêmes conséquences sur les organismes vivants. Et cette radioactivité par le radon est très présente en Limousin, particulièrement à cause du grand nombre de mines d'uranium et du sol graniteux. Et donc, J'approfondirai ce cas du Limousin dans ma présentation orale TPE.
Voilà qui va décevoir les auditeurs de Radio Bastivière. Tu pourras toujours nous appeler pour nous en apprendre un peu plus sur la présence du radon en Limousin. Et en attendant, est-ce que tu aurais quelques pistes bibliographiques à nous indiquer ?
Vous pouvez en savoir un peu plus sur ce sujet. Vous pouvez lire plusieurs dossiers qui ont été faits. Il y a Atomes contre biodiversité, qui a été fait par le Monde diplomatique en avril 2011. Ou Comment la vie reprend le dessus, par Science et Vie, en juillet 2010. Ou des études faites par l'IMEA, la surveillance de l'air en Limousin, sur le risque radon et ses remédiations. Vous voulez plus de précisions sur l'expérience faite sur les papillons et l'article du Monde du 16 août 2012 des papillons mutants autour de Fukushima. Un article du Découverte juillet 2011, la radioactivité et ses effets sur l'organisme, quelques repères.
Merci beaucoup Erwan, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ?
Je voulais faire des remerciements à beaucoup de personnes que j'ai contactées. Yannick Harimon de l'INRA. Des Michel Cohn du laboratoire Guest, ou Limousin Nature Environnement, la loutre fluorescente, la source et rivière du Limousin, la CRIRAD, l'agence régionale de santé, le CPE des Pays Creusois, l'IRSN, monsieur Jean-Marc Berthaud, qui m'a été très utile.
Je vous en prie, au revoir.
Et Erwan, merci à toi et n'hésite pas à nous recontacter quand tu feras ta soutenance de TPE pour nous en dire un peu plus sur les effets du radon.
Merci beaucoup et au revoir à tous.